Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Nobody but you and me.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du Patchwork sur Esprit Occitanie pour ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Alors d'habitude, on le dit un peu par automatisme chaque semaine qu'on est heureux de vous retrouver, mais cette fois-ci, le plaisir est d'autant plus intense après ces longues semaines d'interruption. Et j'ai donc eu tout le temps de réfléchir et avec les vacances par là-dessus, de me remettre en forme. Je suis donc toute prête à attaquer la rentrée et cette fois-ci avec un sujet qui m'est cher. Si vous m'écoutiez l'année dernière, vous le connaissez, devinez plutôt. Quel serait le point commun entre des femmes en monokini à la plage et la une de Charlie Hebdo à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de Charlie et de l'hypercacher? Une petite idée? Eh bien, il s'agit de nos libertés individuelles et fondamentales. Alors, on va faire un bref rappel des faits, si vous le voulez bien, pour entamer ensemble cette réflexion. Jeudi 20 août 2020, une patrouille de gendarmerie a demandé à des femmes de remettre le haut de leur maillot de bain sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, après la plainte d'une famille. Une intervention confirmée par la mairie de Sainte-Marie-de-la-Mer, mais non diligentée par elle. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que si autrefois le topless sur une plage pouvait constituer un délit d'exhibition sexuelle, eh bien aujourd'hui, plus rien ne l'interdit. La loi impose seulement de ne pas montrer son sexe en public, sauf dans les espaces naturistes, bien sûr. Alors, attention tout de même localement, ne vous emballez pas. Hein. Les maires peuvent aller plus loin dans les restrictions. Par exemple, Paris-Plage, eh bien, le règlement interdit le port des strings et du monokini, considérés comme des tenues indécentes, puisque certes, Paris-Plage, mais on est en ville quand même. Alors, petite parenthèse internationale, hein, se promener topless à New York, c'est possible. La police de la ville a récemment reçu une note lui rappelant que les femmes ne commettaient aucun crime à dévoiler leur poitrine en pleine rue, d'après une loi de 1992. J'en connais, j'entends les claviers, là, ça planifie déjà les prochains congés, ça réserve les billets. Alors, à l'origine de cet incident, donc au Sainte-Marie, la plainte d'une famille dont les enfants auraient été choqués, cachez donc ces seins que je ne saurais voir. Alors, choquée, moi je veux bien, mais je suis une enfant des années 80 et je peux vous dire qu'à l'époque, quand on avait le Collar au Chaud, les Coco Girls et Jean Roucas juste avant le 20h du samedi soir, donc à une heure de grande écoute, on avait largement plus de quoi être choqué. Alors bien sûr, vous le savez, la défense des droits des femmes est un sujet qui m'est cher également et je me réjouis qu'on aille de plus en plus vers une désinstrumentalisation du corps de la femme ou du moins qu'on arrête, par exemple, de nous mettre des femmes en petite tenue pour nous vendre des yaourts, de l'eau minérale, des voitures, que sais-je encore. Le chemin est encore long, mais nous avons progressé. Mais ce n'est pas la même chose lorsqu'un publicitaire décide d'utiliser l'image de la femme et lorsqu'une femme elle-même décide de ce qu'elle veut faire de son corps, surtout sur un espace autorisé comme la plage et dans les limites de ce qui est légal. Second événement cité en ouverture de cette chronique, Charlie Hebdo. À la veille de l'ouverture du procès, Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures de Mahomet, celle-là même qui avait fait de l'hebdomadaire satirique une cible pour les djihadistes et les attentats que nous avons connus. Dans la presse, juste avant l'ouverture du procès, Rhys a déclaré que la haine est toujours là et que nous ne nous coucherons jamais, Rhys étant le directeur de l'hebdomadaire satirique. Le président de la République, à ce moment-là en visite au Liban, lui a rappelé la liberté de blasphémer en France, qui est attachée à la liberté de conscience. Il faut quand même rappeler que dans notre histoire, on a une longue origine de critiques, d'humour satirique et autres. Alors, cette republication, en une de Charlie Hebdo, a quand même déclenché l'ire du Pakistan, qui l'a condamné mardi soir avec la plus grande fermeté. Alors, le Pakistan, encore, bon, pas très surprise, mais ce qui me gêne et m'inquiète davantage, c'est qu'elle l'est également largement commentée et critiquée sur nos réseaux sociaux, et donc par des citoyens français. Alors, je ne vais pas vous faire un florilège de ce que j'ai lu, mais en synthèse, On a des choses du style « Charlie l'a bien cherché », il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas plaisanter, « Republier est une provocation qui devrait être sanctionnée », et je vous passe le caractère réellement haineux de certains propos que je qualifierais d'à vomir. Alors, à l'heure où certaines de mes consoeurs avocates perdent la vie dans des pays bien loin de garantir les libertés individuelles comme la France, je pense notamment à Ebru Timtik en Turquie, qui est morte après une grève de la faim pour réclamer le droit à un procès équitable, question qu'on ne se pose plus chez nous, ou Nasrin Soutoudeh, emprisonnée en Iran, et elle aussi en grève de la faim, pour des raisons similaires, eh bien, je me dis qu'il serait quand même grand temps que chacun se rappelle de la chance qu'il a de vivre dans un pays libre et s'inquiète de voir certaines des libertés menacées. Alors, pour rappel, puisque nous sommes dans une chronique juridique, quelles sont les sources et les moyens de protection des droits et libertés fondamentales en France? Si vous êtes en première année de droit, la prise de notes intensive, c'est maintenant. Alors, en elle-même, notre Constitution du 4 octobre 1958 ne consacre explicitement que très peu de droits et libertés. On va citer très brièvement le principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens, le principe de laïcité, qui impose notamment le respect de toutes les croyances, le principe à valeur constitutionnelle de fraternité, la liberté individuelle qui interdit les détentions arbitraires et la libre administration des collectivités territoriales. Les droits et libertés, eux, sont essentiellement consacrés par des textes dont je vous ai déjà parlé et auxquels renvoie le préambule de la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Et ces droits et libertés, ils ont une double protection, en fait, une protection non juridictionnelle. C'est pour ça notamment qu'on a créé le défenseur des droits, qui peut être saisi par toute personne qui se considère comme étant lésée par des interventions de l'administration, de l'État, des collectivités territoriales, et une protection juridictionnelle, en particulier avec le Conseil constitutionnel, alors qui est le gardien des droits et libertés. Jusque-là, on avait l'impression que c'était plutôt au moment de l'élaboration de la loi et que donc c'était le respect des droits et libertés par le législateur. Mais avec la révision constitutionnelle de 2008, on a créé la fameuse QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Et donc, vous, moi, n'importe qui, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, eh bien, le justiciable soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, eh bien, le Conseil constitutionnel peut être saisi en direct de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Donc vous voyez que quand on parle des libertés individuelles, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, on n'est pas sur du folklore, on est sur un vrai truc. Et c'est tout simplement l'un des fondements de l'État de droit et donc d'un pays dans lequel vous pouvez vivre librement. C'est la raison pour laquelle il faut s'inquiéter des atteintes, même infimes, parce que c'est toujours le début de quelque chose qui va être beaucoup plus important après, qui leur sont ou qui risquent de leur être portées. Si je reprends l'exemple de Charlie, les attentats des 7 et 9 janvier 2015 avaient quand même mis dans la rue 4 millions de personnes, démontrant que personne ne renoncerait à la liberté d'expression et donc de se moquer de quoi que ce soit, sous quelque forme que ce soit. 6-5 ans après, comme on peut le lire sur différents réseaux sociaux, on considère qu'il ne faut pas jeter l'huile sur le feu, qu'il ne faut pas critiquer une religion quelle qu'elle soit, qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, alors il faut prendre conscience qu'on abdique devant l'extrémisme, le totalitarisme, quel qu'il soit, et que c'est la défense de nos libertés qui perd du terrain. Si on doit reprendre les exemples des dessinateurs de Charlie, on était, même si ça peut en surprendre certains, dans une pleine application du principe d'égalité, où en fait, les musulmans étaient traités et moqués par les dessinateurs de Charlie Hebdo, comme tous les autres croyants, en se moquant de l'islam comme ils se moquaient du catholicisme. Et à l'époque, les dessins de Charlie n'avaient absolument pas vocation à se moquer des musulmans, mais des intégristes, de la même manière que je pense que les dessinateurs de Charlie ou n'importe quel dessinateur satirique se seraient plus à épingler les intégristes catholiques. Si, 5 ans après, la France reste déchirée par des affrontements sans fin sur ces questions, alors ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, eh bien, le terrorisme a gagné. On constate aujourd'hui que de plus en plus, la race, les origines, la religion deviennent des sujets obsessionnels. Et je lisais il n'y a pas très longtemps un entretien très intéressant de Robert Badinter qui rappelait que la République, en tout cas française telle qu'on la connaît aujourd'hui, est une et indivisible dans ses valeurs et dans ses fondements. Et il déclarait que elle ne peut, la République, cohabiter avec le communautarisme quel qu'il soit. et l'adhésion à ses valeurs et à ses principes ne peuvent être négociées. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que les libertés, la laïcité existent par, pour et dans un subtil équilibre où chacun peut exister, être respecté, être moqué, être défendu, dans le respect des limites qui s'imposent à soi-même et aux autres. Et si on rompt cet équilibre, si on estime que des sujets ne peuvent être traités avec humour, alors on met en danger nos libertés, notre démocratie, notre état de droit. Alors, j'en reviens à mes femmes topless, puisque j'ai ouvert ma chronique sur ça. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu en début d'année un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020. On était en matière criminelle à l'époque. Enfin, c'est la chambre criminelle qui a statué et qui a considéré que incriminer l'exhibition de la poitrine d'une femme lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche de protestation politique, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Alors cet arrêt, il a été rendu sur un recours suite à un happening d'une fémène qui avait dévoilé sa poitrine, me semble-t-il, au musée Grévin, à côté de la statue d'un des dirigeants russes. Elle avait été poursuivie en correctionnel pour ça. Le dossier est monté jusqu'en cour de cassation. Et vous voyez que dans l'appréciation du dossier, eh bien, ce que fait primer la cour de cassation par-dessus tout, c'est la liberté d'expression. Et que même du coup, si ce qu'elle a fait pourrait être considéré comme de l'exhibitionnisme, eh bien, on va considérer qu'il y avait tout le contexte autour et que ce n'était pas juste pour le fun qu'elle a fait, c'est parce qu'il y avait un message politique derrière. Et donc, à partir de là, eh bien, la liberté d'expression doit primer par-dessus tout. Pour les plages, la question avait été réglée il y a bien plus longtemps par le Conseil d'État. On a une ordonnance du 26 août 2016 qui avait mis un coup d'arrêt à l'époque à la vague des arrêtés municipaux anti-burkini, en estimant que le burkini ne cause aucun trouble à l'ordre public et que son interdiction menaçait les libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Donc, ce que retient le Conseil d'État, c'est que sur la plage, les femmes sont libres de se vêtir comme de se dévêtir. Et donc, on peut légitimement penser que si un arrêté municipal aujourd'hui était pris pour interdire la pratique du topless à la plage, eh bien, il serait censuré par le juge administratif. Donc, comme vous le voyez, eh bien, nos libertés peuvent sournoisement, discrètement, être attaquées et il nous faut y voyer. Même sous couvert de pseudo-moralité, de sécurité, de sécuritarisme, de protection, c'est un terrain sur lequel il ne faut rien lâcher. Et souvenez-vous qu'on en a parlé l'an dernier, hein, à l'occasion notamment d'une chronique que j'avais faite sur le monde de la culture et de l'affaire Polanski, que l'infantilisation, la surprotection des populations, la surmoralisation, de nombreux domaines, dont la culture, eh bien, sont en général un des signes avant-coureurs du totalitarisme, quel qu'il soit. Voilà, c'était ma rentrée sur Esprit Occitanie. Je vous laisse à vos réflexions, que j'espère riches, sur ce sujet et sur la base de cette chronique, en espérant qu'elle crée des interactions et des échanges entre vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, sans doute avec une chronique en droit du travail. On sera moins dans la théorie, on sera plus dans la pratique. Et pour l'heure, je vous laisse en compagnie d'Éric Hébel, notre chroniqueur économique.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa de Hébel. Pour commencer cette deuxième saison du Patchwork, notre émission nourricière, je vous propose un programme quelque peu éclectique. Je vais d'abord répondre au quiz que je vous ai posé il y a quelques mois, lors de notre dernière émission au mois de mars. Je vais vous parler ensuite d'une nouveauté dans le monde de l'épargne salariale. Le point suivant concernera Apple, que tout le monde connaît, qui pèse un petit peu plus lourd qu'un indice que vous connaissez tous. Ensuite, je vous parlerai d'un Italien, un homme merveilleux qui s'appelle Ambrogio Calepino. Nous célébrerons avec 3 jours de retard un nouvel an et nous verrons ce qui s'est passé un 14 septembre pour finir enfin par un nouveau quiz. C'est parti avec la réponse du quiz de notre dernière émission pré-confinement. Alors, je vous rappelle la question parce que vous avez certainement une excellente mémoire, mais bon, je pense que c'est de bon ton. La question était, quel est le nom de la bactérie responsable de l'apparition d'un ulcère à l'estomac ? Alors, comme toujours, un auditeur extraordinaire m'a fourni la bonne réponse. Il s'agit de Philippe Douste-B. Alors, bien sûr, il a souhaité rester anonyme, et là, je reconnais sa réserve naturelle. Donc, il s'agit de la bactérie dont le nom est, prenez un crayon, et un petit papier, et vous allez la noter, ça s'appelle Helicobacter pylori. Alors, dans la suite de la chronique, je l'appellerai HPY, ça sera beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile à écrire. Donc, cette bactérie fut découverte une première fois au XIXe siècle par des scientifiques allemands. Mais ces derniers, n'arrivant pas à la cultiver, décidèrent d'abandonner leurs recherches. Et ce n'est qu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, en 1982, qu'elle fut redécouverte par deux chercheurs australiens, M. Robin Warren, qui était pathologiste, et Barry Marshall, gastro-entérologue. Donc ils reçurent, 23 ans plus tard, en 2005, le prix Nobel pour avoir découvert que cette bactérie, HPY pour les intimes, était responsable de l'ulcère à l'estomac. Alors, la légende urbaine veut que... Comment ils ont fait pour savoir que la bactérie donnait l'ulcère à l'estomac? Mais c'est tout simple, il paraît que Barry Marshall, donc le gastro-entérologue, a bu le contenu d'un gobelet dans lequel ils avaient fait une culture de HPY et, bien sûr, il a développé un ulcère à l'estomac. Et comment ne pas rendre hommage à un médecin toulousain qui trouva, il y a près de 20 ans, un vaccin thérapeutique capable d'éradiquer cette bactérie. Sa découverte a été validée par M. Marshall, qui est juste un des deux découvreurs de la bactérie. Malheureusement, ce vaccin issu de ses recherches en immunothérapie ne trouva aucun débouché auprès de nombreux intervenants qu'il contacta. Peut-être pourrons-nous nous permettre de parler de lobby. Malheureusement, cette bactérie qui touche la moitié de la planète aujourd'hui est soignée par deux médicaments, les antibiotiques, qui font, n'oublions pas, 12 000 morts par an du fait de l'antibiorésistance en France actuellement, et avec ce que l'on appelle les IPP, donc Opral, Mogast, Oméprazole, les Oméprazole, qui, pris à haute dose, peuvent avoir un effet légèrement négatif sur le foie, c'est-à-dire entraîner un cancer du foie, et puis aussi attaquer les reins. Enfin bref, un traitement qui a quelques effets secondaires. Donc ce médecin, chercheur, humaniste, homme au grand cœur, toujours prêt à vous rendre service, s'appelait M. Fernand Narbet-Torossian. Il est malheureusement décédé au cours de l'été 2019. Le jour de son décès, le monde a perdu l'un de ses plus grands chercheurs. Je dirais plutôt qu'il a perdu l'un de ses plus grands trouveurs, car le nombre de ses découvertes est tout simplement incroyable. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. C'est quelqu'un qui était juste extraordinaire. Cher Fernand, vous nous manquiez, vous me manquiez. Je suis fier de vous avoir rencontré. Reposez en paix. L'épargne salariale, alors je vous en ai beaucoup parlé au cours des premières chroniques, ça faisait longtemps, mais un décret paru le 6 juin 2020 au journal officiel définit un nouveau cas de déblocage anticipé et apporte une précision dans le cadre du PERCO. Ce décret est entré en vigueur le 7 juin 2020, soit le lendemain de sa parution. Alors examinons maintenant en détail les modifications apportées par ce décret. La première concerne la création d'un nouveau cadre de déblocage anticipé au sein des PEE, donc les plans d'épargne entreprise, des PEI, les plans d'épargne inter-entreprise, et des CCB, les comptes courants bloqués. Ce nouveau cas porte à 10, donc, le nombre de cas de déblocage anticipé proposés sur ces plans. Le législateur autorise dorénavant le déblocage anticipé des avoirs pour les personnes victimes de violences conjugales, que ces dernières soient commises par l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Si malheureusement vous vous trouvez dans cette situation, vous avez la possibilité de débloquer la totalité ou une partie de vos avoirs détenus sur votre plan d'épargne et ou sur votre compte courant bloqué. Pour ce faire, vous devez fournir en complément de votre demande de rachat anticipé comme pièce justificative, soit une ordonnance de protection délivrée par le juge des affaires familiales, soit une copie de la décision de justice lorsque les faits donnent lieu à l'ouverture d'une procédure pénale ou à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République. Et là, je parle sous le couvert de maître Marie, en espérant ne pas avoir dit trop de bêtises. Donc cette demande de déblocage anticipé peut et pourra s'effectuer à tout moment et n'est absolument pas soumise à la moindre règle de délai, comme pour les autres cas de déblocage anticipé qui doivent se faire dans les 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an après le fait générateur. La seconde modification concerne le PERCO. En effet, le décret institue un délai de 6 mois pendant lequel un salarié peut demander le déblocage anticipé de son épargne en cas d'acquisition ou de remise en état de sa résidence principale. Alors, le montant maximum que le salarié peut demander à débloquer reste toujours limité à son apport personnel. Ce délai s'applique aux demandes dont le fait générateur est intervenu à compter du 7 juin 2020, le fait générateur étant soit la date de signature du compromis, soit celle de la signature de l'acte authentique. Et alors, vous allez me demander, mais comment bénéficier de ces nouveautés ? Tout simplement, il vous faut prendre contact avec l'organisme qui gère votre épargne salariale ou aller certainement sur votre espace salarié que vous devez avoir avec les codes qui sont certainement bien cachés dans vos affaires. Allez, on va faire un petit tour du côté de la bourse. Les marchés financiers. Alors, cet été, je dois avouer qu'une phrase m'a étonné. La phrase était toute simple, Apple pèse plus lourd que le CAC 40. Alors, pour rappel, Apple fait des ordinateurs, des iPads, bon, plus beaucoup parce que maintenant avec l'iPhone, vous faites ce que vous voulez. Enfin, si l'iPad est pas mal, il y avait l'iPod, enfin bon, c'est une boîte d'informatique. Le CAC 40, c'est un petit peu plus grand, c'est le numéro 1 mondial du luxe, LVMH, l'un des plus grands dans les cosmétiques, L'Oréal, Airbus, même si Airbus a été divisé par deux, la valeur a été divisée par deux, mais néanmoins, ça vend quand même quelques avions. Donc, j'ai une petite idée de chronique juste pour montrer un petit peu les joies de la finance et les capacités qu'ont les financiers à nous étonner. Alors, souvenez-vous toujours que les arbres ne montent pas au ciel. Ça, c'est un adage qui est bien connu en bourse. Les arbres, non, mais peut-être que les pommiers peuvent monter jusqu'au ciel. Ça, on ne le sait pas. Alors, le 18 août dernier restera vraiment un jour historique. C'était vraiment le 18 août sur la planète finance a encore eu la capacité de me surprendre. Pour la première fois depuis la création d'un marché financier, quel qu'il soit, la valorisation d'une société cotée sur un marché réglementé a atteint le montant faramineux, gigantesque, incroyable, astronomique. Bon, je parlais du ciel à l'instant, donc c'est pour ça que je parle d'astronomique, démesuré, voire fou. Je pèse mes mots. La valeur d'Apple est arrivée à 2000 milliards de dollars. Donc en euros, parce qu'on va essayer de voir, parce que peut-être que pour nous, ça nous parlera un peu plus, ça correspond simplement à 1650 milliards d'euros. Alors, et quelle société et 2000 milliards, à quoi ça correspond ? Parce que bon, 2000 milliards, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 2000 milliards de dollars ? Alors si on se réfère simplement aux données du FMI 2018, Apple vaut plus que le PIB canadien, le PIB russe, voire le PIB espagnol. Alors ce qui signifie simplement que la valeur d'Apple est supérieure à l'ensemble des richesses créées dans ces trois pays. Alors pas cumulées, hein, mais imaginez que Apple vaille plus que ce que tous les Canadiens ont créé en une année. C'est pas rien, c'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est incroyable, c'est que la valeur a quand même juste doublé en 2 ans. Déjà en août 2018, les journalistes parlaient d'une d'un record. C'était la première valeur à passer les 1 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ça vaut simplement, uniquement le double. Et imaginez qu'en face, la valorisation du CAC 40 est de 1 570 milliards d'euros comparé aux 1 650 milliards que vaut Apple. Alors, pouvons-nous parler d'une bulle ? Je ne suis pas devin, mais les chiffres donnent le tournis. Et rappelez-vous que les arbres, même si ce sont des pommiers gavés d'engrais, eh bien, les arbres ne montent pas au ciel, même dans les contes de fées. La curiosité est le signe d'un esprit actif, selon l'expression de Jack Vance, auteur américain de science-fiction et particulièrement dans le style fantasy. Alors moi, j'adhère à cette maxime à tel point que je ne me sépare jamais de mon calepin ni de mon stylo-plume. Cette double présence dans ma poche me permet de prendre des notes à chaque fois qu'une idée me traverse l'esprit. Mais au fait, d'où vient le mot calepin ? Je vous l'ai dit, je suis un peu curieux. Eh bien, ce mot nous vient d'Italie, de la région de Lombardie, et plus précisément de la province de Bergame. Il faut remonter au XVe siècle pour trouver l'origine de ce mot. C'est dans cette région transalpine que naquit Ambrogio Calepino. Alors désolé pour l'accent, je parle très mal l'italien. Donc Ambrogio Calepino naquit en 1435 dans un petit village, Calepio, qui est une petite cité proche de Bergame. Ambrogio Calepino était un savant et un religieux qui consacra toute son existence à la réalisation de son dictionnaire. Ce fameux dictionnaire parut pour la première fois en 1502 comme ouvrage monolingue en latin. Ambrogio Calepino décida de le compléter en 1509 en y ajoutant trois nouvelles langues, l'hébreu, le grec et l'italien. Le mot Calepino devint ainsi le terme consacré pour désigner un dictionnaire. Ce dernier sera ensuite emprunté par la langue française à la fin du XVIe siècle et il sera utilisé jusqu'au XVIIe siècle pour désigner, comme dans la langue d'Ambrogio, un dictionnaire. Ce n'est que plus tard que le mot calepin s'appliquera à un recueil de notes de taille beaucoup plus modeste qu'un dictionnaire. De nos jours, le calepin est un petit carnet que nous pouvons tous glisser dans notre poche. Vendredi dernier, soit le 11 septembre, nos amis éthiopiens et érythréens fêtaient leur nouvel an. Ce premier jour de l'année, nommé Ankutasht, clairement c'est comme pour l'italien, désolé pour la prononciation, je parle très mal éthiopien. Donc ce jour se déroule le 11 septembre selon le calendrier grégorien. Cette fête du Nouvel An est basée sur le calendrier éthiopien qui lui-même suit le calendrier julien. Alors je vous donne beaucoup de noms de calendriers, ça vous permettra d'aller faire un tour sur Internet, voir Wikipédia et vous verrez un petit peu à quoi correspondent tous ces calendriers. Donc cette date marque en général la fin de la saison des pluies. De grandes célébrations ont eu lieu dans tout le pays, notamment à l'église Raguel, qui se situe sur la montagne Antoto, qui surplombe la capitale, Addis Abeba. Voyageons un petit peu, malgré la pandémie. Je pense que pas grand monde peut aller en Éthiopie. C'est un pays qui est un petit peu blacklisté. Que s'est-il passé un 14 septembre ? Alors, si je vous dis 1515, vous me répondez Marignan. Et vous avez raison, bravo. Alors, elle marque la victoire des troupes franco-vénitiennes de François Ier sur les mercenaires suisses. Enfin, ceux qui n'étaient pas rentrés chez eux avec la somme d'argent versée par François Ier la veille de la bataille. Le 14 septembre 1867, Karl Marx a eu la chance de voir son célèbre livre Le Capital paraître pour la première fois. Quelques années plus tard, en 1901, Theodore Roosevelt devint le 26e président des États-Unis. Après l'assassinat de son prédécesseur, William McKinley, il prêta serment le 14 septembre, donc il y a 119 ans. L'OPEP fut créée en 1960, le 14 septembre. Alors, l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole voit le jour lors de la conférence de Bagdad, à l'initiative du Shah d'Iran. Alors, Shah, c'est avec un H à la fin. Les membres fondateurs étaient l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela. L'organisation compte aujourd'hui 13 membres et a son siège à Vienne depuis 1965. Et pour finir, un nouveau quiz. Quel est le nom du palais construit par le facteur Cheval ? C'était la Casa de Hebel. Je vous laisse en compagnie de Monique Marc, notre lectrice d'Occitanie, qui nous propose de nous initier aux joies du tatouage. À la réalisation, je salue la première de Yanis, qui va nous accompagner au cours de cette nouvelle saison. Si vous avez pris l'émission en cours, ou si vous souhaitez écouter à nouveau cette superbe émission, elle sera donc rediffusée ce soir à 23h et demain matin à 9h. Bon, quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio www.espritoccitanie.fr. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page de l'émission. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle flânerie dans la Casa de Ebel.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois de pause. Je vais donc reprendre la lecture du roman de Gilbert Noguès « Superman ne volera plus » aux éditions Kern. Et pour rester dans le ton du livre, je suis masquée. Donc, je vous avais laissé sur la confection du cercueil de Superman. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tatouage. Nous débutons par un couplet de la chanson de Dorian, également intitulé « Le tatouage ».
J'ai jeté l'encre à la page que je n'ai pas su tourner. Avec moi, ce tatouage me rappelle comme je t'aimais. Et je porte comme un fardeau notre amour à fleur de peau.
Finalement, le cercueil de Superman avait de la gueule. La caisse était rudimentaire. Les amateurs de bricolage le savent, la volige, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en matière de bois pour réaliser un habitacle propice à l'éternité. Mais le Tché ne se laisse pas aller à la facilité. En 4 coups de marteau, quelques pointes, 2 ou 3 vis, et le tour était joué. Le Tché n'en est pas resté là. Il avait farfouillé dans son atelier et avait dégoté quelques vieux pots de peintures oubliés. Comble de la perfection, il y avait du bleu, du rouge et un fond de jaune. Vous me suivez ? Vous pigez ce qu'il allait se passer ? Consuelo avait fait dans le gros en badigeonnant la caisse de bleu. J'avais fait dans la finesse en coloriant le couvercle du paletot de bois sur lequel notre camarade brocanteur avait tracé un grand S dans un triangle inversé au pan supérieur coupé. Pour une fois, il y allait avoir cohérence entre l'emballage et le produit. Nous n'inventions rien. En Afrique, il est coutumier de rejoindre les espaces célestes dans un poisson, une poule ou un combiné téléphonique. J'avais proposé d'y ajouter 2 ailerons, mais mes camarades, plus réalistes, m'avaient laissé comprendre qu'autant ces attributs pouvaient faciliter l'élévation de notre ami vers l'éternité, autant les 3 passages dans un caveau seraient alambiqués. Mes 2 camarades avaient compati à ma déception et j'avais continué de passer le séchoir à cheveux sur la peinture pour en accélérer la déshydratation. Finalement, le cercueil de Superman avait de la gueule. Le Tché avait proposé de nous raccompagner avec son fourgon, initiative qui nous aurait convenu après une journée aussi chargée, mais le vieux bahut rouge et noir avait refusé de démarrer. Qu'à cela ne tienne, nous avions chargé le futur hébergement de Superman sur le triporteur. Spartacus avait pris place à l'intérieur et, tel Leonardo DiCaprio, installé à la poupe de ce nouvel esquif, il se découvrait roi du monde. Finalement, le cercueil de Superman avait de la gueule. C'est ce que je me dis en le déchargeant dans la cour de la maisonnette de Consuelo. Spartacus a enfin daigné quitter sa vigie. Avant cela, il nous a fallu attendre que Lampedusa le remarque. Et chose faite, le patineur n'est pas peu fier. Il est suffisamment tard maintenant et nous apprécions le calme de cette soirée froide. La lune reste dissimulée derrière un épais tapis de nuages. Par moments, elle s'y infiltre et une clarté sommaire tente d'apporter un brin de lumière à notre entreprise. Le corps de Superman s'est un peu assoupli, mais par endroits, le stade de décongélation ultime n'est pas encore arrivé. Pas question de le passer dans un micro-ondes pour en accélérer le processus. Consuelo étant trop volumineuse pour se plier et attraper Superman, j'enjambe avec souplesse et félinité le bord de la cuvette et je rejoins notre compagnon d'infortune dans son habitacle. Prends-le sous les bras et fais-moi le passer. Je m'exécute. Le contact de son corps contre le mien est plus glacial que je n'osais l'imaginer. J'aurais dû mettre des gants, dis-je en soulevant le congelé. Consuelo le réceptionne contre sa poitrine pendant que je le saisis par les jambes et pousse l'ensemble vers l'extérieur. Ma divine chanteuse, qui le serre très fort, est propulsée en arrière par ce mouvement et s'affale sur le sol de terre battue. Amortie par l'épaisse couche de graisse de son postérieur, elle n'en manifeste pas moins sa fureur par des putains et encore des putains plus sonores les uns que les autres. Spartacus, inquiet de ce dérapage, glisse vers elle. Lampedusa ignore le spectacle. Je rejoins l'entassement, commence par repousser sur le côté le corps de Superman avant de m'atteler à celui de la Zingara. Je constate qu'elle n'a pas la légèreté escomptée et que soulever cette masse n'est pas de tout repos. Ne disposant d'aucun palan, je tire aussi fort que je peux la main qu'elle m'a tendue et j'arrive à la rétablir sur ses deux jambes. En pestant, elle essuie ses fesses au moment où nous constatons que celle de Superman, révélée par le déchirement de sa tenue, empeste suffisamment pour nous obliger à pincer nos narines. « Je reviens !» me dit sa rondeur. Je la regarde s'éloigner avant de refermer le couvercle du congélateur. Je reste un moment pantois devant le corps de mon funambule qui vient de connaître sa quatrième chute. Je frissonne. « Tiens, mets ça sur ton putain de blair !» préconise son immensité en me tendant une pince à linge dont je devine aussitôt l'usage. Cette fille a de la ressource. Nous soulevons le corps de Superman et nous le posons délicatement sur le congélateur. Il le mérite après toutes ses multiples chutes. J'ai mis de l'eau à chauffer sur la rosière dans un putain de fait-tout. J'opine de la tête et je m'élance, jambe gauche bringue-ballante vers l'intérieur de la maisonnette. Et ramène une éponge ! Lorsque je reviens quelques instants plus tard avec mon pot d'eau chaude entre les mains et une éponge coincée entre les dents, je découvre Consuelo, la tête collée à la poitrine de Superman. « C'est quoi ce bazar ?» me dis-je, complètement éberlué par la scène qui se présente devant moi. Consuelo est en pleurs, embrasse le cadavre tout en claironnant. « C'est toi, tu es revenu !» Normalement, je devrais être bouche bée devant un tel tableau. Mais l'oubliez pas, j'ai toujours une éponge entre les dents. Je finis par la cracher, par poser le fait-tout et par m'approcher du couple. Je pose mes mains sur les épaules de ma chanteuse préférée. Je ressens les tressautements de son corps. Je ne comprends rien à ce qui se passe, sinon que je me doute que Consuelo semble connaître, en tout cas reconnaître, l'individu que nous avons recueilli et hébergé, oui, on peut le dire, depuis plusieurs nuits. Consuelo se tourne vers moi, m'enlace, plonge sa bouille arrondie dans mon cou et se vide de toutes les larmes de son être. Par-dessus son épaule, profitant d'un rayon de lune qui vient se poser sur la dépouille de Superman, je tente de décrypter l'individu. La tête, tout du moins ce qu'il en reste, s'est complètement enfoncée dans les épaules et il a bien perdu une bonne dizaine de centimètres. Je laisse mon regard se déplacer vers la poitrine du Maccabée. Consuelo, couturière affirmée, a déjà procédé à la découpe de la tenue et le grand S rouge sur fond jaune est partagé par son axe. Merci à la Lune qui me fait découvrir un tatouage qui ne m'est pas inconnu. Le même que celui que j'ai déjà observé à maintes reprises depuis quelques jours. Le même qui trône sur le sein gauche de Consuelo. Une grenade serrée dans un poing. Et au-dessus, 5 lettres, comme un cri de rage. Basta. Elle tente de me dire quelque chose, mais les mots ont du mal à sortir. Contre mes jambes, je sens les ondulations de Lampedusa et le frottement du patin de Spartacus. Ces deux petits êtres ont plus d'humanité que bien des humains. C'est mon frère. Je le susurre contre son oreille glacée que mon souffle tente de réchauffer. Je perçois le dodelinement de sa tête qui me confirme que je suis en présence de ce frère que j'ai perdu de vue il y a plus de 30 ans. Voilà, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit voyage vers Mexico et vous dis à très bientôt.